RFI, 6h30 à Andalanarive, 4h30 à Kinshasa. Vendredi 13 juin, bonjour à tous, c'est Afrique Matin qui commence à la une. Monsieur le Premier ministre, seriez-vous prêt à démissionner si vous sentiez que vous aviez échoué? Question posée par l'opposition à Madagascar, face à face entre députés et gouvernement hier à l'Assemblée. On est à Antananarivo dans un instant. Il demande justice, on manifestait hier au Kenya. L'émotion est toujours vive après la mort d'Albert Ojwang, ce jeune homme arrêté pour des tweets critiques de la police et retrouvé mort dans sa cellule. Ce journal aussi, l'appel au dialogue lancé par la société civile à Bukavu en RDC, ville sous contrôle de l'AFC-M23. Les États-Unis toujours intéressés par les minerais de l'est de la RDC. Et puis trop de nids de poules et une chaussée défoncée. Une étape du Tour cycliste du Cameroun annulée à Douala à cause de l'état des routes. Deux jours pour dire leur colère et leurs attentes au gouvernement. À Madagascar, les députés ont entamé hier un face-à-face avec l'exécutif, un exercice prévu par la Constitution qui doit se poursuivre aujourd'hui. Rare occasion pour l'opposition minoritaire de faire entendre sa voix. Deux ministres manquaient à l'appel hier, ceux des Affaires étrangères et de l'Environnement. Tous deux pourtant très attendus sur le dossier des îles éparses et d'un projet minier contesté dans le sud du pays. Alors Pauline Le Troquet, hier les élus ont interpellé le gouvernement sur les urgences socio-économiques de la grande île.
Le retour en force des délestages, les coupures d'eau, l'insécurité. Face aux membres du gouvernement, les élus pointent les mêmes mots, quelle que soit leur couleur politique et le ton choisi pour le dire. Gaskar Fensou, député indépendant à Antananarive, fait partie des voix qui interpellent le plus frontalement le Premier ministre Christian Tsai.
Cela fait 7 ans que vous dirigez le gouvernement et aujourd'hui 80% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. La situation ne s'améliore pas. Monsieur le Premier ministre, cher ministre, seriez-vous prêt à démissionner si vous sentiez que vous aviez échoué?
Tout au long de la session, les préoccupations économiques sont restées centrales. Le coût de la vie augmente, une crise de l'emploi en zone urbaine couve depuis l'annonce d'éventuels droits de douane sur les produits exportés vers les États-Unis. Mais le budget de l'État, voté en novembre dernier pour l'année en cours, ne sera pas rectifié. L'élu indépendante Sophie Ratirac s'en agace.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une loi de finances adaptée par rapport à la conjoncture. Avec 8% d'inflation, qu'on en parle en personne responsable parce qu'on est tous censés être soucieux du bien-être et de l'avenir de notre pays.
Le face-à-face va se poursuivre ce vendredi, laissant une occasion aux élus d'interpeller le régime sur les îles éparses. À 2 semaines de la réunion de la commission mixte dédiée à avancer sur ce différend avec la France. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
C'est le dossier brûlant du budget qui a été abordé hier au Parlement kényan. Un an après le projet de loi de finances qui avait embrasé la rue, le gouvernement a présenté une nouvelle mouture, cette fois sans les hausses d'impôts. Au cœur de la colère. Un an plus tard, ce n'est plus contre le budget, mais contre les violences policières que l'on manifestait hier à Nairobi. L'indignation est toujours forte après la mort d'Albert Ojwang, ce jeune homme de 31 ans, arrêté pour des tweets critiques du numéro 2 de la police et retrouvé mort dans sa cellule. Hier, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Nairobi. Reportage Alban Tiroir.
Les manifestants demandent justice et la démission du numéro 2 de la police, Eliud Lagat. Il est à l'origine de l'arrestation d'Albert Ojwang en cause des publications sur X qui accusaient ce responsable de corruption, un motif qui met en colère Joshua Kimani.
Albert
a publié un tweet. Si l'inspecteur général adjoint de la police s'est senti maltraité ou diffamé, il avait d'autres moyens de contester, comme les tribunaux. Là, nous entendons qu'Albert Ojwang a été torturé. Personne ne mérite cela.
Le chef de la police a promis des mesures disciplinaires. Après les conclusions de l'enquête, le président William Ruto a assuré que justice serait rendue, mais les autorités peinent à convaincre. Marianne Cassina et Lenny Sikuku sont descendues dans la rue pour dire stop.
Nous ne pouvons pas faire confiance à la police. Au départ, ils ont affirmé que notre camarade s'était cogné la tête contre le mur. Il y a beaucoup de déclarations suspectes. Nous sommes fatigués.
Déjà l'année dernière, lorsqu'il y a eu des morts, on nous a promis qu'il y aurait des enquêtes, que ceux qui ont tué nos camarades seraient tenus pour responsables. Mais à ce jour, nous n'avons vu aucune justice.
Il y a près d'1 an, plus de 60 personnes ont été tuées lors de manifestations antigouvernementales violemment réprimées. Hier, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes et plusieurs personnes ont été blessées par des balles en caoutchouc. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et un officier de police a été arrêté hier soir. Il devrait, selon la presse kényane, être inculpé pour le meurtre d'Albert Ojwang. Le bilan des inondations grimpe à 78 morts en Afrique du Sud. La province du Cap-Oriental, dans le sud du pays, a subi un violent épisode hivernal. Les opérations de secours se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants. L'Afrique du Sud, dont les troupes engagées aux côtés de la SADC, poursuivent leur retrait de la RDC. C'est la communauté de développement de l'Afrique australe qu'il l'annonce dans un communiqué. Après les moyens techniques et logistiques au mois d'avril, ce sont les soldats qui commencent à quitter le pays. Cette annonce intervient alors que Bintou Keïta est arrivé à Goma. Première visite de la chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC depuis la prise de la ville par l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Elle doit rencontrer Corneille Nanga, aujourd'hui le chef du mouvement politico-armé. Pendant ce temps, au sud Kivu, à Bukavu, la société civile a lancé un vaste appel au dialogue. Plusieurs organisations ont apporté leur soutien à l'initiative de la CENCO, les évêques qui mènent des consultations depuis plusieurs mois. Magali Lagrange, la société civile demande donc un dialogue inclusif de toute urgence. Magali Lagrange, que
le président du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu prend la parole au nom de toutes ses composantes. Mick Mutiki lance un appel général au dialogue.
Nous lançons un appel vibrant à toutes les parties impliquées dans le conflit et toutes les forces sociales de se mettre autour d'une table à travers un dialogue inclusif en respectant un cessez-le-feu immédiat. Un dialogue dont la nécessité n'est pas le partage du gâteau ou de pouvoir, mais la refondation de la nation congolaise à travers des réformes pertinentes.
Les acteurs de la société civile recommandent la mise en place d'un couloir humanitaire, la réouverture de l'aéroport de Goma et également celle des banques fermées en raison du conflit, situation qui complique le quotidien des populations déjà éprouvées de l'Est de la RDC. Pour la présidente de la nouvelle société civile congolaise aussi, le dialogue est indispensable, Mireille Mirembetassi.
Même si la guerre continue, tôt ou tard, on va finir par dialoguer. Alors, pourquoi attendre à ce que ça soit plus grave? Depuis février, ce n'était que la voix des armes qui était en train de gagner le terrain. Nous sommes fatigués. Il faut que ça cesse.
La société civile du Sud Kivu appelle également à la cohésion sociale et à la mise en place d'une justice transitionnelle pour établir les responsabilités.
C'est l'un des autres enjeux de la guerre dans l'Est de la RDC. La question des minerais, elle est au cœur de la DRC Mining Week, plus grand rassemblement des acteurs de la région. Ça se termine aujourd'hui. Hier, l'ambassadrice des États-Unis, Lucy Tamlin, était de la partie. Une première, Alexandra Branjon, l'occasion pour elle d'exposer la nouvelle politique économique de l'administration Trump.
Trop longtemps, nous avons été en retrait sur le continent, a reconnu l'ambassadrice américaine devant un parterre d'investisseurs. Avant d'ajouter, nous nous concentrons désormais sur une croissance portée par l'investissement et le commerce. Les Américains veulent diversifier leurs sources d'approvisionnement en minéraux nécessaires aux technologies de pointe, cobalt, coltan, lithium, et dont la plupart des gisements se trouvent dans l'est de la RDC. Pour y arriver, Lucy Tamlin a insisté sur la nécessité de rétablir la paix et appelé au retrait de toutes les forces étrangères du pays. Washington et Kinshasa négocient depuis plusieurs semaines un accord qui devrait permettre aux États-Unis d'accéder aux minéraux stratégiques de la RDC en échange d'une aide pour résoudre le conflit avec le groupe armé AFC M23. Avec cet accord, Washington espère pouvoir prospecter dans la région. Les Américains disent avoir investi plus de 6 milliards de dollars dans le corridor de Lobito. La rénovation d'une ligne ferroviaire allant de la Zambie à l'Angola via la RDC qui permettrait d'exporter les ressources minières de ces trois pays.
Alexandra Branjon, et pendant que les États-Unis avancent leur pion en Afrique, la Chine, elle, vient de faire une annonce forte. Elle va supprimer tous les droits de douane sur les exportations des 53 pays africains avec lesquelles elle entretient des relations diplomatiques. Nouvelle étape de la communauté de destin Chine-Afrique, comme l'a qualifié Xi Jinping, qui entend renforcer la solidarité entre les pays du Sud. Il est 3h39 en temps universel. C'est une nouvelle illustration de l'état des routes au Cameroun. La Fédération camerounaise de cyclisme annule une étape du Tour du Cameroun. Elle devait passer par Douala, mais impossible de rouler, tant la chaussée est dégradée et impraticable. Richard Onanena, ça ne surprend pas grand monde dans le pays.
Non, je pense que l'état des routes au Cameroun est suffisamment désastreux. Et le dire, c'est comme enfoncer une porte ouverte parce qu'on sait que c'est vieux comme le monde.
Christian Tchapmi, coordinateur de la rédaction d'un quotidien de la capitale, n'est pas surpris par l'annulation cette semaine d'une étape du Tour cycliste du Cameroun à cause de l'état des routes dans la capitale économique.
Pour une capitale économique comme Douala, voir qu'on a annulé le tour et qu'on se contente de faire des allers et retours, des allers et venues sur un petit tronçon pour valider l'étape par l'Union Cycliste Internationale, c'est déplorable et ça montre à quel point nous avons touché le fond.
Les images de l'étape du Tour annulée ont été relayées par de nombreux médias. L'état de délabrement du réseau routier camerounais est régulièrement pointé du doigt par la population. Trajet rallongé, véhicules abîmés. Pour ces deux habitants de Yaoundé, la situation est de la responsabilité du gouvernement.
Il y a beaucoup de négligence à ce niveau-là sur la route au Cameroun. Tu achètes une voiture, tu as 3 semaines, tu vas au garage. Si ta voiture elle est basse, on se plaint tous les jours, mais rien ne change. Les routes sont impraticables.
C'est assez déplorable de voir l'état de certaines routes, même les grands axes routiers du centre-ville. Je pense que l'État devrait prendre ses responsabilités en intervenant là.
Plusieurs projets de réhabilitation de la voirie sont annoncés à Douala. À Yaoundé, la mairie de la ville vient de lancer le projet Yaoundé Cœur de Ville, une initiative qui vise à réhabiliter plusieurs axes routiers de la capitale camerounaise. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Et côté sportif, au classement général du Tour du Cameroun, le maillot jaune est toujours arboré par le Camerounais Boris-Michel Tienche. Ce vendredi, journée de repos pour les coureurs qui repartiront ce week-end pour les deux dernières étapes. Le Journal des Sports, c'est avec Antoine Grenier dans tout juste une heure. La démocratie burundaise a été vidée de sa substance. Les mots d'Human Rights Watch. Hier, l'ONG réagit après la publication des résultats provisoires des législatives. 96% pour le parti au pouvoir, mais des irrégularités constatées dans le scrutin, selon Human Rights Watch. Hier, sur notre antenne, l'opposant Olivier Nkurunziza parlait d'élections truquées. Au Togo, c'est la violence politique, les difficultés économiques et la corruption qu'ont dénoncé hier les membres du CRAC. Le cadre de réflexion et d'action pour le changement, une plateforme de partis politiques et d'organisations de la société civile. Elle se réunissait pour la première fois depuis les événements du 6 juin. Là, des dizaines de personnes avaient été arrêtées dans des manifestations critiques du pouvoir à Lomé. Hier, le CRAC a donc dressé le bilan des 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé. Et ses membres ne mâchent pas leurs mots. Écoutez le professeur David Dossé, membre de la conférence des présidents du CRAC.
Le président doit démissionner pour des raisons claires et objective. La première raison, c'est qu'il n'a pas de légitimité. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a un échec de sa gouvernance. Que vous voyez sa gouvernance au plan politique, où on peut se permettre d'arrêter les journalistes, de récupérer leur matériel, les obliger à effacer les images, attraper un jeune médecin, le bastonner, pour reprendre ses propres termes, sauvagement, et puis tranquillement aller chez soi, parce que c'est une république bananière. Il a échoué au plan économique. Et enfin, je pense qu'il a échoué au plan social. C'est un échec parce que c'est un modèle mauvais qu'il laisse aux jeunes générations. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président Faure et Sozinna Gnassingbé, vous devez rendre le tablier.
Propos recueillis par Peter Sassou Dogbé. Rendre le tablier, Assimi Goïta n'est pas prêt de le faire. Le chef de la junte au Mali file tout droit vers un nouveau mandat de 5 ans, renouvelable à partir de 2025. Un projet de loi en ce sens a été adopté mercredi en Conseil des ministres. Et cela suscite la colère et l'indignation des responsables politiques maliens. On en parle dans le journal de Jeanne Bartoli dans une quinzaine de minutes. Pour l'heure, il est 5h43 à Paris.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr. Afrique Matin sur RFI. Arthur Ponchelet.
Voilà pour le journal. Restez avec nous dans les prochaines minutes. Parole d'entrepreneurs africains à Vivatech, le salon des nouvelles technologies à Paris, alors que les investisseurs sont de plus en plus frileux. L'Algérie préfère le blé russe au blé français et on verra dans la chronique des matières premières que cela inquiète les producteurs européens. Et puis le journal de l'océan Indien de nos confrères de La Première nous emmène à La Réunion pour parler emploi aidé et puis de la saison des baleines qui approche à grands pas. Mais d'abord, on part pour la Sierra Leone. Le pays ouest-africain est l'un des plus exposés au monde à un phénomène qui s'accélère, l'érosion côtière. 2 millions de personnes établies le long des côtes risquent ainsi de perdre leur habitation. Illustration, ce matin à Plantain Island, une petite bande sablonneuse à une cinquantaine de kilomètres au sud de Freetown, la capitale. Des dizaines de bâtiments ont déjà disparu et les cases en tôle qui se dressent encore sur cette île risquent à leur tour d'être englouties. RFI reportage, Lisa Fabian.
La terre sablonneuse semble avoir fondu à force d'être léchée par les vagues. Le rivage s'enfonce maintenant à pic dans l'océan. L'érosion de la côte a déjà emporté une partie de l'école de Plantain Island. L'extrémité du bâtiment est détruite et frôle le vide. Le professeur Ibrahim Tarawali se remémore son arrivée sur place il y a presque 20 ans.
Beaucoup d'entre nous sont venus ici depuis le nord pendant la guerre civile. Et maintenant, cette île est en train de disparaître à cause de l'érosion et des intempéries. Oui, j'ai peur. Regardez cette école. Une salle de classe et le bureau du principal sont tombés dans la mer. Graduellement, l'île rétrécit de plus en plus. Et quand elle disparaîtra, il faudra bien partir.
La population était initialement de plus de 5000 personnes. Il n'en resterait plus que quelques centaines. En contrebas, les vagues turquoises viennent se briser à quelques mètres seulement d'une petite mosquée bleue. Autrefois, ce bâtiment se trouvait au centre du village. L'imam Djibril Aladji Camara continue d'y diriger la prière.
Une partie des murs s'est déjà effondrée. Alors les gens viennent encore prier, mais ils ont peur. Alors quand la marée est haute, les fidèles prient vite, vite, le plus vite possible avant de repartir.
Une voisine s'approche. Kadiatou Diallo porte un long voile noir qui recouvre son corps sec. La vieille femme originaire de Côte d'Ivoire pointe la surface lisse de la mer.
Avant, on pouvait marcher jusqu'à la petite île, tout là-bas. Il y avait une route, des maisons et une autre mosquée. Mais tout a disparu. Et juste là, c'était ma maison. Nous vivions de manière très confortable. En fait, on ne pouvait même pas entendre les vagues quand on dormait. Il y a des années, d'ici, on ne pouvait même pas deviner qu'on vivait sur une île. On ne voyait même pas la mer.
L'Agence pour la protection de l'environnement au Sierra Leone et l'Organisation internationale pour les migrations ont mené récemment une étude pour voir comment améliorer la vie des habitants sur place. Henry David Bayo est consultant pour l'agence gouvernementale.
Pour ceux qui veulent rester sur l'île, il faut prendre des mesures de protection. Par exemple, on réfléchit à la manière dont on pourrait restaurer les mangroves qui entourent l'île. Parce que cette végétation permet de ralentir l'érosion et de protéger la côte.
Une bonne partie des habitants de l'île Plantain n'ont tout simplement nulle part d'autre où aller, ni même les moyens de quitter leur habitat en plein déclin. Lisa Fabian, de retour de Freetown, RFI.
Voilà pour ce premier reportage consacré à l'île Plantain, où l'on sera également demain avec notre envoyée spéciale Lisa Fabian. Vendredi 13 juin, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans les grands titres de l'actualité internationale, la principale information de la matinée, ce sont ces frappes israéliennes en Iran. Elles ont visé tôt ce matin des sites militaires et nucléaires iraniens. Et l'armée iranienne promet une réponse forte. Israël sera sévèrement puni, dit le guide suprême Ali Khamenei. La télévision d'État de Téhéran reconnaît que le chef des gardiens de la révolution a été tué. Il sera vengé, jurent ses membres. L'usine d'enrichissement de Natanz dans le centre du pays a notamment été touchée à plusieurs reprises. La télévision d'État parle de mort dans des immeubles résidentiels de la capitale. De son côté, le Premier ministre israélien s'est exprimé, Benjamin Netanyahou estimant être dans un moment décisif de l'histoire d'Israël et affirmant que l'opération militaire durerait autant de jours que nécessaire. Le chef d'état-major israélien déclare lui qu'il ne peut promettre un succès absolu dans la campagne militaire historique lancée par son pays contre l'Iran. Il met en garde contre le bilan de possibles représailles iraniennes sur Israël. De son côté, le chef de l'ONU appelle à la retenue maximale. Quant aux États-Unis, le président Trump avait demandé hier à Israël de ne pas attaquer l'Iran. Le chef de la diplomatie américaine déclare que l'État hébreu a agi de manière unilatérale. On en parle avec Siavash Gazi en direct de Téhéran dans le prochain journal dans 20 minutes. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site et sur notre live où on vous raconte tout ce qui se passe en temps réel. Et puis l'actualité, c'est aussi l'Assemblée Générale de l'ONU qui appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et qui appelle à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire pression sur Israël. Dans le même temps, en Égypte, des dizaines de militants pro-palestiniens venus participer à une marche internationale vers Gaza ont été interpellés hier. Certains expulsés vers leur pays d'origine. On est en direct du Caire dans le journal de 5h temps universel. vous emmène à présent dans l'un des plus grands rendez-vous des nouvelles technologies. Ça s'appelle VivaTech, ça se passe à Paris et les startups africaines y sont bien représentées. Elles sont de plus en plus nombreuses à venir du Congo, de Côte d'Ivoire, du Sénégal ou encore du Nigeria. L'occasion de présenter leurs innovations mais aussi de trouver des financements, ce qui n'est pas toujours une mince affaire tant les investisseurs sont frileux. Reportage Afrique Économie, signé Alexis Bédu.
Comment être certain que ses enfants sont bien arrivés à l'école? L'idée de Magatsila est simple. Au sein de sa start-up Kitus, il a créé un dispositif de pointage biométrique.
Quand l'enfant se présente, l'élève, l'apprenant au niveau de l'établissement, il pose son doigt sur le dispositif. Et dans la seconde qui suit, le parent reçoit un SMS.
Et il le teste d'ailleurs dans plusieurs établissements dakarois. Ce pitch, il le répète toute la journée à VivaTech, auprès d'autres start-upeurs et auprès de potentiels investisseurs qui font ce qu'on appelle le due diligence, une analyse poussée du projet avant de signer le chèque.
On ne peut pas aujourd'hui avoir un contact d'investisseur et avoir les investissements tout de suite. Ça prend du temps. Donc moi, pour moi, c'est l'ordre normal des choses. Mais ce qui est sûr, qu'on tombera sur la bonne porte pour lever le million de dollars qu'on est en train de rechercher.
Mais les grosses levées de fonds sont de plus en plus rares. Les investissements ont baissé et l'Afrique a bien du mal à les attirer. Yaya Koné en est à sa deuxième start-up en Côte d'Ivoire et c'est difficile de trouver des financements pour les jeunes pousses du continent.
Quand on va investir dans une start-up africaine aujourd'hui, voilà, je suis un investisseur, je vais attendre un retour sur investissement 3, 4 ans, 5 ans et j'attends un multiple de l'investissement par 3 par 4. Ça, c'est le classique. Ça marche pas en Afrique, malheureusement. Parce que, finalement, on n'a pas encore un cadre réglementaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme je dis, par expérience, quand on va regarder aujourd'hui, que ce soit au Nigeria, en Égypte ou au Kenya, c'est vrai, on a quand même on a quelques licornes africaines. Comparé à ce qui s'est fait au niveau mondial, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Donc, pour que ça soit un peu plus massif, il faut vraiment regarder l'approche de l'investissement de nos startups.
Des investisseurs frileux au risque, mais certains États africains profitent des 3 jours de VivaTech pour mettre en avant leurs champions nationaux et donner confiance aux financeurs très nombreux à Paris pour cet événement tech.
Reportage Alexis Bédu pour Afrique Économie. VivaTech, c'est jusqu'à demain, porte de Versailles à Paris. La déprime, à quelques semaines de la récolte, on parle du blé dans la chronique des matières premières et des difficultés des céréaliers européens. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Les prix du blé tendre, celui utilisé pour fabriquer la farine et le pain, ont chuté pour atteindre le seuil symbolique des 200 euros la tonne.
Et oui, on parle du prix du blé européen qui sera livré en septembre et qui s'achète et se vend dès aujourd'hui. Ce blé est pris dans une spirale baissière depuis le mois de février. La tonne qui s'est changée à 240 euros à ce moment-là est aujourd'hui tombée à 200 euros. Le mouvement est général car la demande internationale est assez timide. On assiste donc aussi à un essoufflement des prix à la bourse de Chicago, l'autre référence importante pour le prix des céréales. Mais en raison de la hausse de l'euro par rapport au dollar, le blé européen est moins attractif, moins compétitif que le blé russe ou ukrainien et donc plus difficile à vendre.
Et parmi les facteurs qui pèsent sur le prix du blé, Marie-Pierre, il y a la perte du marché algérien.
Oui, avec la hausse de l'euro, c'est le facteur qui alimente la baisse des prix, car la demande pour les blés français s'est effondrée en Algérie, et la France étant le premier producteur européen, l'impact est important. Depuis 2020, l'Algérie s'est ouverte au blé russe, les exportations françaises vers cette destination ont logiquement très vite chuté, mais elles se sont quand même maintenues à environ 1,8 million de tonnes par an. Jusqu'à cette dernière campagne qui se termine, l'Algérie n'a acheté que 30 000 tonnes de blé français. Autant dire quasiment rien. Et les perspectives d'une reprise sont maigres depuis le soutien affiché par Emmanuel Macron à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La solution pour les Européens, c'est de trouver des marchés ailleurs. Mais là encore, la hausse de l'euro complique la tâche des exportateurs.
Et les prix du blé sont aussi tirés vers le bas parce que tout simplement le marché est rassuré.
Oui, parce qu'il reste des volumes disponibles à commercialiser dans l'hémisphère sud et que les productions de l'hémisphère nord s'annoncent bonnes, que ce soit en mer Noire, en particulier en Russie, mais aussi en Europe, avec un record annoncé en Roumanie et une récolte en France qui s'annonce bien meilleure que celle catastrophique de l'année dernière. Au prix actuel, le blé n'est en tout cas plus rentable pour les agriculteurs européens. Il faudrait 35 à 40 euros de plus par tonne pour qu'un agriculteur français, par exemple, couvre ses coûts de production.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières. Merci à vous et très bonne journée. Bientôt 4 heures en temps universel. Avant de retrouver Jeanne Bartoli pour le journal, on fait un détour par l'océan Indien. Et c'est à La Réunion que nous emmène le journal de nos confrères de La Première. On revient sur la colère des élus après l'annonce de la baisse des financements des emplois aidés. Colère visiblement entendue à Paris. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Il y aura donc bien, cette année, 10 000 PEC, parcours emploi compétences, financés par l'État à hauteur de 50%, mais ce sera tout de même 2 000 de moins qu'auparavant. Bruce Régent.
Parole tenue, disent les maires, mais les collectivités n'oublient pas que 50%, c'est quand même 10 points moins qu'en 2024. La chute est certes moins vertigineuse que ce que les premières prévisions laissaient craindre, mais 10 000 PEC au lieu de 12 000, ça reste un coup dur. Les élus contactés ce matin persistent. Ces contrats sont indispensables au fonctionnement. Si l'État y met moins d'argent, ce sont régions, départements et communes qui rallongent. Plus de dépenses de fonctionnement pour eux, ça veut dire moins d'investissements, moins de commandes publiques et donc un déséquilibre de l'économie pays, une mise en danger même de très nombreuses entreprises. Il ne faudrait pas que ça devienne structurel. En 2019, le plan Pétrel avait fixé le seuil minimal nécessaire à 12 000. La différence, 2 000 emplois, serait à leur sens moins qu'une goutte d'eau à l'échelle du budget de l'État. Et puis ce problème résolu seulement en juin a obligé les collectivités à faire du bricolage et à se serrer la ceinture pendant tout le premier semestre sur la propreté urbaine, sur l'encadrement du périscolaire. Il ne faudrait donc pas que ce soit comme ça tous les ans. Ce sont des postes nécessaires, pas des cadeaux électoralistes, précisent les élus. Certains rappellent aussi au passage que l'emploi et l'insertion sont des compétences de l'État. En baisser les montants dans le contexte actuel est un message politique très parlant et très choquant.
La régularisation foncière à Mayotte, un chantier titanesque, il l'était déjà avant le cyclone Chido, il l'est encore plus aujourd'hui, d'où la venue dans le département 101 d'une délégation de notaires, géomètres experts et autres généalogistes. Leur mission, sécuriser autant que faire se pourra les opérations foncières liées à la reconstruction et accompagner la population. Écoutez le géomètre Eric Hoffmann, venu de La Réunion, et le notaire Alexandre Sirugue au micro de La Première.
Ce qui motive notre venue, c'est que le gouvernement souhaite mettre en place une politique de reconstruction très volontariste et que cette reconstruction nécessite une sécurisation foncière. Et c'est bien dans ce cadre-là que nos professions viennent sur le territoire pour échanger avec les populations, avec les responsables politiques locaux, de façon à faire ce qui nous semble être les meilleures propositions possibles pour être le plus efficace possible dans la sécurisation foncière, le titrement, enfin tous ces sujets qui participeront à la reconstruction de l'île.
Le but, c'est vraiment de montrer à la population également de Mayotte et nous, ici localement, nous avons été accompagnés par nos représentants, nos instances nationales. Ils veulent accompagner le territoire et la population mahoraise pour activer en fait les mécanismes de titrement.
Retour à La Réunion pour terminer. Maintenir une activité touristique désormais bien installée, l'observation des baleines, tout en protégeant le bien-être des cétacés, c'est l'objectif d'un nouvel arrêté préfectoral plus restrictif, ce qui, il faut bien le dire, fait grincer quelques dents du côté des professionnels de la mer, surtout à l'heure où l'association Globis annonce la probabilité d'une belle saison. Écoutez à ce sujet le chargé de communication de Globis, Jean-Marc Gansil, au micro d'Olivier de la Richaudie.
On a réactualisé le modèle statistique qui nous permet de rentrer un certain nombre de variables environnementales qui sont celles de l'Antarctique. Et cette année, d'après nos conclusions, la tendance est plutôt bonne. Sans doute pas aussi exceptionnelle que l'année 2023 a pu l'être, mais en tout cas du niveau probablement de 2022 ou 2024. Alors voilà, on n'est pas des apprentis sorciers qui jouent avec l'avenir, mais on va dire qu'à quelques semaines maintenant de la présence des baleines, on peut être relativement confiant sur leur nombre, si tant est que ce modèle soit juste.
Autour de 300 spécimens.
Voilà. À peu près.
Fin de cette édition. Bonne journée, bon week-end.
Bonne journée et bon week-end à vous aussi, Benoît Ferrand. Et c'est donc en attendant les baleines à La Réunion que se referme cette demi-heure d'actualité. Merci à Laurent Hérault à la réalisation, Xavier Besson à la rédaction en chef ce matin. Merci à vous surtout de votre fidélité à la Radio du Monde. L'actualité africaine revient dans tout juste 30 minutes. Vous avez rendez-vous avec Simon Bourtembour. D'ici là, restez bien avec nous sur RFI. Dans une minute, c'est le journal de Jeanne Bartoli et on revient évidemment sur ces frappes israéliennes en Iran. Restez avec nous.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Où sont les femmes artistes dans l'histoire de l'art? Si elles sont surreprésentées en tant que muses, elles sont invisibilisées en tant que créatrices. Comment les femmes artistes s'organisent pour être reconnues?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
RFI Planète Radio, en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement, lance l'édition 2025 du concours Hip-Hop.
Alors, prenez vos smartphones et captez le ressenti de celles et ceux qui affrontent au quotidien les conséquences des changements climatiques et environnementaux.
Envoyez vite vos vidéos de 3 minutes maximum à concours.epop.network.
Vous avez jusqu'au 12 septembre pour participer.
Maintenant, à vous de jouer.